Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue à l'écoute des Années décisives, l'émission qui décrypte les mutations à l'œuvre dans le monde et la société, l'émission qui réfléchit aussi à la meilleure façon d'y faire face. Vous le savez, en juin prochain, comme tous les Français et tous les Européens, nous sommes conviés à voter aux élections européennes. Et cette élection à l'échelle d'un continent pourrait être un événement enthousiasmant. Elle pourrait en effet être la manifestation d'une prise de conscience que les Européens forme une communauté de civilisation et de destin. Elle pourrait être la manifestation d'une volonté d'exister à nouveau dans le monde, dans un monde en plein bouleversement, et même d'exister tout court. Mais bien sûr, il n'en sera rien. Rares sont les Français et les Européens qui se rendront aux urnes avec un tel sentiment de fierté et d'enthousiasme. Et cela peut se comprendre, car paradoxalement, le moment historique de l'édification de l'Union européenne est aussi celui de l'effacement de l'Europe. Or, il aurait pu en être autrement. Personnellement, par exemple, je conserve un souvenir extrêmement vif et ému de l'événement extraordinaire, à la fois vivement espéré et inespéré, que fut la chute du mur de Berlin et du rideau de fer. Je m'en souviens comme si c'était hier. Comme tous les jeunes Européens, je n'en croyais pas mes yeux. Depuis quelques semaines, les pays de l'Europe de l'Est étaient certes agités de manifestations populaires, mais chacun redoutait que cela ne se termine comme à Budapest ou à Prague dans un bain de sang. Mais en fait, non. Tout le système soviétique a cédé, le mur est tombé, l'Europe, horriblement défigurée depuis 40 ans par le rideau de fer, retrouvait son intégrité avant que l'URSS ne s'effondre à son tour. Je ne sais pas, chers auditeurs, si vous pouvez imaginer l'effet que cela produit sur les jeunes de ma génération. Nous n'étions pas seulement soulagés de ne plus vivre sous la menace des chars soviétiques, nous étions persuadés qu'une ère nouvelle allait s'ouvrir pour notre continent. C'était bien sûr des retrouvailles avec nos frères séparés. Les télévisions retransmettaient d'ailleurs des scènes incroyables où des familles se retrouvaient enfin, des enfants retrouvaient leurs parents, des frères, des cousins se rencontraient. Mais il y avait aussi le sentiment que l'Europe, enfin réunie, allait retrouver sa place dans le monde, retrouver le fil de son histoire, en un mot, se retrouver elle-même, qu'elle allait pouvoir redevenir elle-même en se libérant symétriquement des empires soviétiques et nord-américains qui la servissaient, chacun à leur manière. 30 ans après, comme vous le savez, ce n'est hélas pas ce qui s'est passé. Ces espoirs ont été douchés. 30 ans après, nous ne pouvons que brosser ce triste constat. Réalité économique déclinante et nain géopolitique, incapable d'une politique étrangère commune, méprisée par la Russie, inondée par les manufactures chinoises, pillée par nos alliés américains, rachetée par les princes venus du sable et submergée par les populations halogènes, l'Europe peine précisément à retrouver la place qui devrait être la sienne. Voilà certainement pourquoi les élections européennes ne suscitent pas l'enthousiasme qu'elles pourraient provoquer. Et pourtant, nous sommes bien européens, européens et français, européens parce que français, si bien que nous ne pouvons pas nous désintéresser de l'Europe, nous détourner de l'Europe. Nous pouvons bien sûr nous détourner de l'Union européenne, de la castor seule qui la dirige, de ses institutions sans racines ni volonté. Nous devons en revanche refonder l'Europe, mais comment? En nous appuyant sur quel héritage? En formant quel projet? Ce sont quelques-unes des questions décisives que nous allons explorer aujourd'hui en nous appuyant sur les travaux réalisés en ce sens par les membres de l'Institut Iliade qui, le week-end dernier, organisaient à Paris leur colloque annuel sur le thème « L'Europe de nos enfants, de l'héritage à l'engagement » et dont le pôle études vient par ailleurs de sortir un magnifique premier cahier d'études consacré, lui aussi, à l'Europe. Et pour cela, nous recevons non pas un invité, mais 3 invités. Nous recevons d'abord Jean-Yves Le Gallou. Monsieur, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez un CV long comme le bras, vous êtes un éternel militant et agitateur d'idées.
J'ai mon rond de serviette à Radio Courtoisie.
Et vous avez par ailleurs votre rond de serviette à Radio Courtoisie, tout le monde vous connaît. Mais vous êtes, je le reprécise, fondateur de l'Institut Iliade dont nous allons présenter les travaux ce soir. Nous recevons aussi Rémi Sellier.
Bonsoir. Bonsoir.
Vous êtes philosophe et écrivain, vous avez contribué à ce cahier de l'Institut Iliade et vous êtes bien connu également de nos auditeurs de Radio Courtoisie car vous animez sur RC le monde de la philosophie.
C'est ça, tous les 4 lundis, le matin, de 10h à 11h.
Enfin, notre troisième invité est Thomas White. Thomas, bonsoir. Vous êtes auditeur, bonsoir. Vous, de l'Institut Iliade. Vous nous expliquerez ce que ça signifie être auditeur de l'Institut Iliade, mais peut-être pourquoi ne pas le faire tout de suite.
Eh bien, allons-y, être auditeur de l'Institut Iliade. L'Institut Iliade, c'est beaucoup de choses, mais c'est d'abord un institut de formation, c'est-à-dire que c'est une structure qui vise à transmettre le flambeau de la culture et de la longue mémoire européenne. Et pour ce faire, l'Institut Iliade, depuis ses débuts, a mis en place une formation générale qui fonctionne par promotion, une promotion par an au début. Et depuis maintenant 2 ans, il y a 3 promotions par an, 2 parisiennes et 1 qui a lieu en province, et cette formation qui se déroule sur 1 an avec plusieurs week-ends de formation vise à donner à des jeunes étudiants ou jeunes actifs d'ailleurs une structuration, une conscience de ce temps long européen et à encourager l'engagement aussi de ces jeunes dans et au service de la longue mémoire européenne à travers des activités qui peuvent être militantes mais aussi intellectuelles ou artistique à travers la création d'un projet. Et voilà, en quelques mots.
Donc vous êtes ici pour représenter justement la qualité des travaux et nous prouver par votre présence à quel point on est bien formé à l'Institut Iliade. Pour commencer, je voudrais vous faire réagir sur l'introduction. Comment abordez-vous, chacun de vous, ces élections européennes ? Dans quel état d'esprit ? Jean-Yves Le Gallou.
Dans quel état d'esprit avec l'espoir qu'il puisse y avoir une majorité alternative au Parlement européen, ce qui n'est pas forcément gagné, mais que le Parlement européen, il est gouverné depuis des décennies par une alliance entre les socialistes, les démocrates chrétiens et les libéraux libertaires, pour faire simple. C'est-à-dire, par rapport à la France, les partis LR, Renaissance et socialiste. C'est ça la coalition qui gouverne l'Europe au Parlement européen depuis 30 ans. Voilà, ou 30 ans, oui, 30 ans. L'espoir, ce serait que ce soit des dissidents identitaires ou des dissidents conservateurs ou des dissidents de droite qui puissent former une majorité différente. Voilà. C'est pas gagné. Ce qui est gagné, si je puis dire, c'est que le rapport de force, depuis 30 ans, le rapport de force évolue toujours dans le bon sens, mais pas assez. Les forces dominantes restent jusqu'ici ces forces, on va dire, mi-social-démocrates, mi-libérales-progressistes. Voilà. Voilà. Je pense qu'il y a une possibilité.
Que le point de bascule soit atteint.
Que se rapproche du point de bascule et peut-être que le point de bascule soit atteint. C'est très compliqué, hein. C'est sur 27 endroits. Pour être clair, en France, si on veut atteindre le point de bascule, il faut voter pour la liste de Bardella ou pour la liste de Marion Maréchal. Point barre. Éventuellement, dans un excès de laisser aller, on pourrait aller jusqu'à voter Bellamy. Sauf que derrière Bellamy, il y a des gens qui sont...
Et derrière lui, et même derrière sur sa liste.
Sur sa liste, oui, qui sont alliés au système, voilà.
Et vous, Rémi Soulier ?
Oui, moi je suis moins au fait des évolutions politiques. Enfin, en tout cas, je suis plus pessimiste. J'ai une vision beaucoup plus sombre des choses, c'est-à-dire que le système électoral, à mes yeux, est fait que précisément rien ne change. Alors il peut y avoir des évolutions lentes, il peut y avoir des espérances, mais je ne suis pas convaincu que cela passe par le processus électoral, qui n'est qu'une photographie comme ça à un moment donné, et qui peut déboucher sur des statu quo, qui peut donner lieu aussi à quantité de réactions de désespoir, de déception en quelque sorte. Je crois beaucoup plus à l'action de fond sur le long terme. On parlait de longue mémoire depuis le début de cette émission, à cette inscription dans la longue mémoire, à ce combat culturel, à ce combat identitaire, à ce combat intellectuel qui n'est pas d'ailleurs contradictoire avec le combat électoral, c'est vrai. Mais je ne crois pas qu'il puisse y avoir quelque attente susceptible d'être comblée à travers quelques quelque processus électoral que ce soit. C'est peut-être une veine un peu libertaire de mon côté, mais je suis très dubitatif sur les possibilités électorales.
Tout ne passe pas par les élections, c'est certain. Mais enfin, vous avez dit que c'est une photographie. Faisons quand même en sorte que la photographie soit la plus belle possible. On est d'accord ?
Oui, ben naturellement. Oui.
Alors, je rajouterais juste un point. Le débat électoral est aussi un élément de l'information générale de l'opinion. Et il peut y avoir la campagne présidentielle, par exemple, qui s'est écoulée, a permis de faire avancer, par exemple, la thématique du grand remplacement. Indépendamment du résultat de celui qui l'a porté, qui a été un résultat, 7%, c'est sans doute plus modeste que ce qu'il espérait, ce que beaucoup espéraient, mais ça a contribué. Le débat politique est aussi un élément, si je puis dire, du combat métapolitique. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a les idées, c'est aussi un élément de circulation des idées. Pour le reste, je crois effectivement on s'approche peut-être du point de basculement, mais on n'a pas encore atteint, ça c'est sûr. Je partage le point de vue de Rémi Soulier là-dessus.
Et vous, Thomas, qui êtes beaucoup plus jeune.
Oui, ben moi je partage les deux points de vue, mais effectivement, il ne faut pas opposer le combat politique avec le combat de fond. Fondamentalement, le combat métapolitique, le combat culturel, le combat pour le temps long est totalement indissociable du combat politique. C'est là même que c'est l'une des finalités, c'est le combat politique, parce que on peut prendre, c'est un petit peu comme quand la politique, il y a un peu un côté combatif, sinon guerrier, en tout cas combatif. Et dans une guerre, vous avez toute l'intendance, tout ce qui fait qu'un pays va être puissant, c'est qu'il a une industrie, c'est qu'il a du fond, c'est qu'il a aussi des convictions, c'est qu'il a aussi une certitude de son bon droit, et c'est tout ceci qui fait qu'ensuite il va être capable de déployer la puissance, qui va faire qu'ensuite des militaires vont être le fer de lance. L'élection, la politique, c'est le fer de lance dans un combat, c'est-à-dire c'est ceux qui vont au combat, c'est ceux qui vont au charbon, c'est ceux qui vont faire bouger les lignes, et ils ne sont puissants que parce qu'ils ont derrière tout un combat métapolitique qui a été fait en amont. Mais évidemment, ce combat métapolitique, il ne peut pas être dissocié de la politique. Donc il faut aller aux élections. Et sur les élections européennes qui arrivent, ma position, j'ai même fait un petit laïus récemment dans la dernière infolette du Rucher Patriote, le site internet d'annonce et d'échange que j'ai fondé, pour inciter les gens à aller voter, parce que ça reste le moyen, le vote le plus pacifique, le plus facile, ça ne prend que 5 minutes, et ça compte, il faut voir que ça compte, pour faire bouger les lignes. Bien sûr, tout le combat métapolitique, Dieu sait que je suis très investi dedans aussi, et qu'il est fondamental, mais la politique, c'est ça qui fait bouger les lignes. Effectivement, on va parler d'Europe aujourd'hui, on peut commencer par dire ce que l'Europe déjà n'est pas, elle n'est pas évidemment la machine bruxelloise de Madame von der Leyen. Mais la machine bruxelloise, elle existe, elle a des structures, elle a une forme de puissance de facto qui, pour le moment, agit contre nous, parce qu'elle est dirigée, parce qu'elle est animée par des personnes qui agissent contre nous. Exactement, malheureusement, comme l'État français aujourd'hui est une structure plus ancestrale, mais qui est dirigée aussi par des personnes qui, trop souvent, agissent contre, de notre point de vue, l'intérêt de notre peuple et de notre pays. Or, si vous voulez que ça ne soit plus le cas, ben il ne faut pas forcément vouloir dynamiter la structure, il faut vouloir changer les personnes. Comme disait Guillaume Fay, on peut vouloir sortir du train de l'Europe, on peut vouloir, ou de l'Union européenne, on peut vouloir le dynamiter, mais on peut aussi préférer plus stratégiquement tenter d'en prendre le contrôle. Et c'est ce qu'on peut faire, potentiellement, avec les élections. Jean-Yves Le Gallou l'a rappelé, actuellement, tous les partis de gouvernement socialiste ou la droite siègent, grosso modo, mènent la même politique. Par exemple, le parti LR siège dans le même groupe au Parlement européen que M. Macron. C'est donc exactement la même engeance. C'est le PPE, le Parti populaire européen.
Macron n'est pas dans le PPE.
Ah pardon, oui, Renew.
Ils sont alliés, ils sont alliés, ils votent ensemble,
voilà, vous avez raison,
ils ne sont pas dans le
même groupe. Ils sont alliés, mais ils sont alliés, ils suivent grosso modo la même politique. Par contre, il y a une montée indiscutable d'une droite plus consciente, voire plus identitaire à l'échelle de l'Europe. Et si à l'échelle de la France, on a parfois l'impression que l'horizon est non pas bouché, mais disons serré, à l'échelle de l'Europe, il y a déjà des pays qui fonctionnent différemment. On pense à la Hongrie, on a eu des surprises en Italie électoralement, parfois avec des déceptions, mais etc. En Allemagne, ça bouge aussi. Donc oui, il y a une montée, il y a une chance de pouvoir faire basculer. Et toutes les chances de le faire, il faut toutes les chances de faire bouger les lignes, il faut les saisir. Surtout que même lorsqu'on ne réussit pas à gagner les élections, même lorsqu'on ne réussit pas à avoir une majorité qui change radicalement la donne, le fait d'avoir beaucoup d'élus au Parlement européen, évidemment à d'autres élections, ça vous donne aussi, ça nous donne aussi plus de puissance, ça donne des leviers de débat, ça donne des leviers d'influence. Donc il faut se mobiliser aux élections et ne pas tenir le discours du les élections ne servent à rien. Je pense que c'est très contre-productif.
C'est quand même un processus très lent. C'est quand même un processus très lent parce que l'émergence des partis populistes ou identitaires, et je ne parle même pas du Front National dont l'émergence est plus ancienne, ça remonte pratiquement à 25 ans. Voilà. Alors, c'est vrai que y a une évolution, mais qui est quand même très lente. Quand je siégeais au Parlement européen, nous étions 13. Plus, allez, 25 si on compte les gens de Chevilliers et leurs alliés, ou 30, sur un Parlement de 600 personnes. Aujourd'hui, les éléments un peu identitaires, un peu conservateurs, avec beaucoup d'imperfections, ils sont 200. C'est beaucoup mieux. Ça reste... et dans la prochaine Assemblée, ils seront peut-être 250 ou 300... mais je pense qu'ils n'atteindront pas encore la majorité. Mais ça change effectivement le rapport de force. Il faut voir aussi quand même le poids de l'État profond européen. Hein. C'est-à-dire les structures bruxelloises, ce n'est pas seulement le Parlement, ce n'est pas seulement le Conseil des ministres, c'est des dizaines de milliers de fonctionnaires, et pire que les dizaines de milliers de fonctionnaires, les dizaines de milliers de lobbyistes qui tournent autour et qui inspirent les lois, les règlements. Donc il y a vraiment une machinerie extrêmement puissante. Et derrière, il y a aussi les éléments de l'État profond américain qui sont actifs. Voilà. Donc il y a tout un panorama qu'il ne faut pas perdre de vue. Quoi, voilà. Mais bon, voilà.
On a cette carte
tout
à jouer,
avancée, toute avancée est positive. Voilà.
Alors, vous avez parlé
à défaut d'être suffisante.
Vous avez parlé d'une lente évolution. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est une autre évolution, c'est celle du discours des milieux patriotes, français mais aussi européens. C'est-à-dire que longtemps, les mouvements qui s'opposaient à la forme que prend aujourd'hui l'organisation politique du continent européen était plutôt sur une position de type souverainiste pur et dur, de mise en retrait, et d'ailleurs se présenter aux élections en parlant essentiellement de problèmes politiques nationaux, ne s'inscrivait pas dans une stratégie européenne. Ce qui est extrêmement frappant aujourd'hui, comme votre exposé le démontre d'ailleurs, c'est que il y a quand même l'émergence d'une conscience conservatrice, nationaliste, au niveau européen. Chacun parle des alliés qu'il va constituer, de la majorité qu'il espère obtenir. Est-ce que cette évolution ne mérite pas d'être développée? Pour la pousser à son terme, ne faut-il pas lever l'ambiguïté qu'il y a, notamment en s'adressant à l'égard de nos frères séparés souverainistes, pour leur expliquer que ce type de raisonnement n'implique nullement d'accepter l'Union européenne dans sa forme actuelle?
C'est vrai. C'est vrai. Alors, s'agissant de nos frères séparés souverainistes, comme vous dites, avec lesquels je suis souvent en désaccord, il y a un élément qui est quand même important, c'est que dans le système de pyramide des pouvoirs, plus un pouvoir est près du terroir, près du peuple, meilleur ou moins pire il est. C'est-à-dire que l'Union européenne étant loin, a tendance à être plus abstraite, plus dogmatique, plus idéologique que les États. Et l'État, s'agissant de l'État français, étant plus loin que les communes, par exemple, il est aussi plus dogmatique ou plus nocif que les communes. Typiquement, la répartition, l'Europe répartit, l'Union européenne répartit les migrants entre les pays européens, et l'État français répartit les migrants entre les différents territoires, et chaque échelon subsidiaire, en quelque sorte, a davantage de capacité de résistance que l'échelon le plus élevé. Donc c'est vrai que quand on dit qu'il faudrait une autre Europe, une autre Europe, c'est une Europe qui laisse plus de pouvoir aux échelons les plus proches des terroirs et les plus proches du peuple, mais ça vaut aussi pour la France, à l'intérieur de l'État français. Thomas White l'a dit, et je partage tout à fait ce point de vue, l'Union européenne est nuisible à l'Europe, l'État français est nuisible à la France.
Alors vous utilisez le mot subsidiaire principalement, parce qu'on est aussi ici pour développer de façon positive l'Europe de nos désirs, de nos souhaits. Un des articles des cahiers d'études du pôle études de l'Iliade est consacré à la subsidiarité et sous-titré les souverainetés au pluriel. Je me tourne vers vous, Rémi Soulier. Pouvez-vous nous redévelopper notre vision de la subsidiarité et en quoi elle résoudrait les problèmes évoqués par Jean-Yves Le Gallou, les problèmes institutionnels de l'Europe? Quelle architecture pour l'Europe selon ce principe de subsidiarité?
Oui, c'est un article de Fabien Niesgoda, qui est lui-même un ancien auditeur de l'Institut Iliade, et qui est construit autour de la notion d'une interrogation autour de la notion de subsidiarité, telle que l'a définie Jean-Yves Le Gallou, hein, c'est-à-dire que le principe de subsidiarité consiste à dire qu'on ne délègue à l'échelon supérieur que ce que l'échelon inférieur n'est pas à même d'effectuer, ou qu'il serait susceptible d'effectuer d'une manière plus affaiblie, plus ténue que l'échelon supérieur. Donc c'est une vision qui s'oppose à toute forme de centralisation de type jacobin, comme on la voit appliquée très largement dans l'actuelle Union européenne et comme on la voit appliquée dans l'histoire de France la plus moderne, enfin en particulier depuis la Révolution française, mais aussi antérieurement par la monarchie et par le processus de centralisation versaillais, parisien, tel qu'il a été mis en avant déjà par Louis XIV et par d'autres. Et Fabien Niesgoda, dans son article, insiste sur cette grande figure philosophique de la subsidiarité, qui est Johannes Althusius, qui a pensé précisément ce processus de non pas de délégation de pouvoir, mais de prise de pouvoir à l'échelon au plus proche du peuple. Pour reprendre ce que disait Jean-Yves Le Gallou, ce qui peut être absolument tout ce qui peut être géré et résolu à l'échelon de la commune doit l'être. Et ce qui ne peut pas, on peut le déléguer à l'échelon supérieur qui pourra être, par exemple, dans la configuration administrative française actuelle, soit la communauté de communes, mais au-delà, le département, par exemple. Et cette tradition-là, qui n'est pas celle que nous avons suivie singulièrement en France, à raison de notre propre histoire, bien entendu, a été pensée par des penseurs européens, et puis pourrait être, évidemment, appliquée en cas de modification sensible de la vision politique.
Alors, est-ce que vous ne pensez pas que ce très beau principe de subsidiarité n'est pas seulement nié par l'architecture et l'idéologie européiste, mais aussi en quelque sorte par l'air du temps? Parce que au-delà des institutions européennes, pour ne plus focaliser uniquement sur elles, ce n'est pas la conséquence d'une vision de plus en plus techno-managériale, d'organiser les sociétés en édictant des choses qui sont de l'ordre du règlement plutôt que de la délibération en quelque sorte. Est-ce que ce n'est pas le signe que simplement le politique, mais l'Europe y a contribué, la capacité politique et la liberté qui va avec la politique s'efface au profit de cette autre façon de penser et d'organiser les sociétés?
Si, c'est une manière la subsidiarité, si elle est pensée d'une manière juste, ce n'est pas la décentralisation. La décentralisation, ça consiste précisément à partir de l'État, et donc à partir de l'échelon d'un point de vue national le plus élevé, et à déléguer, en quelque sorte, l'État délègue un certain nombre de facultés, de pouvoirs, de puissances à des échelons inférieurs. Ça n'est pas du tout la subsidiarité. Mais on raisonne comme ça aujourd'hui, ne serait-ce qu'à travers ce thème de la décentralisation, mais quand on parle de décentralisation, on ne parle pas précisément de subsidiarité, c'est exactement l'inverse. Ça consiste au fond dans la distinction que l'on fait entre l'État et la société civile ou entre l'État et le peuple à privilégier l'échelon populaire, le peuple lui-même, soit par voie référendaire, soit par la possibilité, par les libertés politiques concrètes et charnelles qui lui sont offertes pour gérer ce qu'il a à gérer à son échelon. Et évidemment, cela suppose de sortir de toute espèce de logique technocratique et bureaucratique.
Juste un mot, effectivement, le mot décentralisation n'est pas un bon mot. D'ailleurs, depuis que la France a décentralisé, c'est-à-dire depuis les lois de fer, on n'a jamais autant recentralisé de fait à travers les communautés de communes, les règlements, etc. Je passe. Et donc, le mot décentralisation n'est pas adapté. Je pense que le mot qui est adapté, c'est le mot qui a irrigué tout le Moyen-Âge, c'est le mot franchise. Il faut des franchises, notamment des franchises locales. C'est ça le.
Ce sont les libertés
qu'il faut
réelles.
Retrouver,
hein.
Ce sont les libertés réelles.
Alors justement, vous avez consacré une intervention au colloque de l'Iliade aux libertés. Pouvez-vous nous développer la façon dont elles sont aujourd'hui bridées, au-delà de l'architecture institutionnelle, et un modèle pour se les réapproprier.
Très, très rapidement, pour qu'on puisse en revenir peut-être au cahier du pôle études, il y a deux éléments qui montrent que les libertés sont bridées. Il y a d'abord l'invasion réglementaire, dont on ne pourra sortir que par le rétablissement des franchises, c'est-à-dire par se débarrasser de cette invasion réglementaire. Je pense par exemple, un exemple même dans le domicile. Aujourd'hui, le domicile, la manière dont le domicile doit se protéger du froid de l'extérieur est réglementé, alors que le domicile, il doit relever de la famille, tout simplement. Bon, donc, réaffirmer les franchises, c'est le premier élément, les libertés, comme l'a dit Rémy Soulier. Et puis l'autre aspect qui est très différent, mais qui est très complémentaire, c'est que la recherche de la vérité ne peut reposer que sur la confrontation des points de vue. Et donc, il faut rétablir la liberté d'expression pleine et complète, puisqu'on ne peut dire que la proposition A est vraie que si la proposition A est confrontée à la proposition non A et qu'elle sort partiellement ou complètement victorieuse de la proposition non A. Et ça, ça va à l'inverse de toutes les réglementations, de toutes les législations qui sont prises en France depuis la loi de 1972, c'est-à-dire depuis 50 ans, mais qui est une loi qui... Ça a commencé en France, mais il y a les mêmes dispositifs à peu près dans tous les pays européens. Et ça va exactement à l'inverse de toute la pensée européenne qui suppose la disputation.
Thomas White, comment entendez-vous cette chape de plomb qui pèse aujourd'hui sur l'Europe, les Européens ? Et notamment sur les jeunes Européens.
Oui, comme le disait Jean-Yves, comme le disait Beaumarchais aussi au XVIIIe siècle, sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. C'est exactement ça l'idée. Fondamentalement, la restriction des libertés, de la liberté d'expression qui effectivement a été en pointe en France, malheureusement avec la loi liberticide de 1972, la loi Plévin, qui s'est répandue ailleurs, relève d'une logique de plus en plus idéologique, et ça rejoint un peu ce qu'on disait sur la subsidiarité d'ailleurs, parce qu'en fait, les systèmes, plus un système est idéologique, plus il va avoir tendance à être centralisateur. C'est-à-dire que les idéologies, ça consiste grosso modo à penser le monde dans le monde éthéré des idées de manière idéale, et ensuite à vouloir tordre le réel, comme on l'a vu avec le communisme, mais avec d'autres idéologies aussi, à vouloir tordre le réel pour l'imposer, ce qui évidemment structurellement, d'un point de vue politique, conduit les défenseurs d'une idéologie à vouloir prendre un pouvoir central et à vouloir imposer leurs normes absolument partout, puisqu'ils pensent que leurs normes pensées théoriquement sont si parfaites qu'il est normal que tout le monde les suive. Alors que la subsidiarité qui poursuit exactement un chemin totalement différent, où on part de la base et où le pouvoir se structure à partir de la base et en acceptant occasionnellement de concéder certaines restrictions de liberté parfois ou certains transferts de puissance seulement quand c'est nécessaire à l'échelon supérieur, en fait on part d'une construction du pouvoir qui est beaucoup plus ancrée dans le concret, dans le réel. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on oppose souvent les libertés à la liberté. C'est une distinction d'ailleurs qui est reprise quelque part, je ne sais plus où, parce que je l'ai parcouru ce week-end tellement il était riche, je ne saurais plus dire dans quel article, mais je l'ai revu, cette distinction excellente reprise dans le cahier des pôles études. La distinction entre la liberté qui est abstraite, donc qui est idéologique et qui souvent est associée à des systèmes qui en réalité détruisent la liberté parce qu'ils sont tyranniques, face aux libertés au pluriel, c'est-à-dire la liberté de, par exemple, du commerce, la liberté d'expression, la liberté d'aller et venir, et toutes ces libertés qui sont des libertés concrètes que les individus, que les citoyens devraient tous avoir. Ensuite, ils s'organisent localement comme ils le souhaitent et occasionnellement concèdent. C'est exactement la logique inverse de la décentralisation, où on a un pouvoir central qui gentiment concède de temps en temps du pouvoir. Non, en sens inverse, c'est la logique organique par laquelle finalement le pouvoir s'est structurée historiquement jusqu'à ce que des agences plus idéologiques essayent de développer des aspects centralisateurs. Et je pense que la restriction de la liberté d'expression est liée à l'idéologisation d'une partie des élites européennes. Ça s'est vu de manière flagrante avec le communisme, mais dans le bloc dit de l'Ouest, si on reprend la distinction Est-Ouest de la guerre froide, c'est en réalité une logique qui est aussi à l'œuvre. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure, vous parliez, Christophe, en introduction de vos espoirs en 1991, au moment de la chute du mur. C'est vrai qu'à cette époque-là, on avait l'impression qu'il y avait une partie du monde qui était idéologiquement malade, qui était le communisme, et l'autre partie qui paraissait à certains plus saine. En réalité, les deux parties étaient malades, mais de manière différente. Il y avait quelques esprits visionnaires qui, dès les années 70, l'avaient vu. Je pense à Konrad Lorenz, le grand théologue autrichien, qui l'avait souligné. Je pense à Guillaume Fay, qui avait déjà écrit « Le système a tué les peuples » dans les années 70. 80. Au début des années 80, déjà soulignait que le système occidental était un système qui tuait les peuples, et on en voit aujourd'hui les effets. Et à Solzhenitsyn, bien sûr, qui a grand dissident soviétique, qui lors d'un fameux discours à Harvard à la fin des années 70, devant des élites américaines qui s'attendaient à l'entendre dire à quel point le système soviétique était épouvantable et à quel point, en comparaison, le système occidental était merveilleux, ont été très surpris de l'entendre dire que certes, le système communiste était catastrophique, mais que le système était pathologique, mais que le système américain qu'il avait vu depuis plusieurs années, qu'il était exilé, était lui-même pathologique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, 40 ans après, on voit de manière de plus en plus flagrante à quel point la partie ouest européenne ou occidentale, dit-on, c'est-à-dire ça incluant aussi les États-Unis, est également atteinte d'idéologie de plus en plus folle et destructrice. Le communisme est tombé en premier parce que c'était peut-être plus visible. L'idéologie dominante à l'Ouest est aujourd'hui... ses effets sont aujourd'hui patents sous nos yeux.
Alors, je vous remercie de votre intervention. Elle me permet d'aborder un autre point qui était central à la fois dans le colloque et qui est abordé également dans le cahier d'études. On a le sentiment un peu paradoxal que beaucoup de gens qui sont parmi les plus favorables et les plus fervents partisans de l'Union européenne ne se définissent pas tant comme des Européens, ne se vivent pas comme des Européens dans le monde, mais plutôt comme des défenseurs de l'Occident et des valeurs occidentale. Bon, j'imagine que vous ne partagez pas du tout cette option, moi non plus, ça tombe très bien, mais est-ce que vous pourriez, Rémi Soulier, nous éclairer sur les différences et en quoi ce thème de valeur occidentale ou de civilisation occidentale n'est en réalité pas pertinent d'un point de vue historique notamment?
Oui, alors pendant que Thomas White s'exprimait, je songeais qu'il était possible en effet, comme il l'a fait lui-même d'ailleurs à la fin de son intervention, qu'il était possible de résumer son intervention à travers deux mots, simplement Europe et Occident. Et je me disais que l'Occident, tel qu'il est en train de se dessiner de plus en plus, c'est-à-dire de se rigidifier, de se solidifier, lui-même de s'idéologiser de plus en plus, se distingue de moins en moins d'une forme de communisme. C'est Flora Montcorbier qui, à l'âge d'homme, avait publié il y a quelques décennies un ouvrage intitulé « Le communisme de marché ». Et on peut s'interroger sur une forme de devenir chinois de l'Occident, comme si ce devenir chinois était le rêve non explicite, mais en passe d'être réalisé ou de vouloir être réalisé par les contre-élites qui sont aujourd'hui à la tête de l'Occident et qui fondent les différents États profonds. Communisme de marché et modèle chinois, oui, parce que ce que l'on voit se profiler, c'est la conciliation d'une forme de prédation économique la plus dévastatrice, la plus ravageante, et du contrôle social le plus strict. C'est ce qui est en train de se mettre à l'œuvre en Occident, qui est en train, dans l'Occident, hein, alors je vais revenir à cette distinction, bien sûr, qui est cardinale, mais pour décrire précisément ce qu'est en train de devenir l'Occident. Et rien ne s'oppose plus à cette forme de contrôle social, de crédit social, qui est l'arrière-pensée véritablement de ces contre-élites, que les franchises. C'est-à-dire que les libertés organiques, je reprends le thème de Thomas White, des peuples européens, est constitutif de ce que fut et de ce qu'est foncièrement l'Europe. Et l'un des axes de ce cahier, effectivement, qui en comporte beaucoup, parce que c'est un cahier d'une très grande richesse, je le dis d'autant plus librement que je n'ai pas participé à sa confection, à la recollection des articles, il faut rendre hommage en particulier au sein du pôle études de l'Iliade, à Olivier Eschenlaub, à Armand Berger, à Walter Auric, à Henri Levavasseur, qui ont été les maîtres d'œuvre de ce cahier, très riche et donc très subtil. Et donc parmi les axes de ce cahier, il y a effectivement cette distinction qui est posée entre l'Europe et l'Occident, puisqu'on voit très bien aujourd'hui, y compris sur un plan politicien, qui n'est pas bien, bien élevé, mais enfin qui est ce qu'il est, à quel point il y a une volonté d'associer impérativement l'Europe à l'Occident, l'Occident étant compris, conçu comme une extension de l'Europe, incluant à la fois évidemment les États-Unis d'Amérique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et Israël. Et on voit comment tout cette...
Et même la Corée, et même le Japon.
Et pourquoi pas la Corée, effectivement le Japon. Alors que... d'ailleurs, c'est d'ailleurs très, très particulier, parce qu'on nous sert également le discours des peuples chrétiens, pourquoi pas...
Et ça n'a pas de fin.
Comme le note d'ailleurs Olivier Eschenlaub dans son article, curieusement, on nous sort l'unité chrétienne, mais de cette unité chrétienne est exclue la Russie orthodoxe, par exemple, et les pays des Balkans qui sont des pays orthodoxes. Donc il y a une véritable reconstruction, alors pour le coup purement idéologique, autour de la notion d'Occident, et le cahier du Paul Iliade vise précisément à clarifier la situation, à indiquer ce qu'est l'Europe et sa plus longue mémoire, donc, puisque le dossier, le cahier s'ouvre sur un excellent article d'Henri Levavasseur sur le monde indo-européen et sur la langue indo-européenne qui a donné naissance à tous les surgeons, à toutes les langues nationales et parfois locales parlées actuellement encore en Europe, donc à cette plus longue mémoire et à ce caractère éminemment vivant et toujours vivant et constitutif de l'Europe réelle en quelque sorte. On pourrait reprendre la vieille distinction maurassienne, mais toujours en vigueur, et que l'on peut transposer à l'Europe, hein, en se disant que l'Occident serait une manière d'Europe légale qui s'opposerait à l'Europe réelle, à l'Europe charnelle, bien évidemment. Donc c'est aussi, effectivement, l'un des axes de ce cahier qui est exploré d'une manière tout à fait précise, d'un point de vue historique, mais aussi religieux, je l'ai dit, ethnique, enfin... Voilà, donc c'est un axe de combat, je crois, qui est toujours pertinent, qui est toujours actuel. Ne nous laissons pas embarquer dans je ne sais quelle vision occidentaliste qui n'est pas européenne, qui est purement reconstruite à la mode idéologique.
Oui, donc ce que vous voulez nous dire, c'est que cet occidentalisme, ce n'est pas seulement une arnaque géopolitique et un moyen de nous embraguer dans des aventures qui ne sont pas celles de nos intérêts, mais c'est même plus profondément une trahison de ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes.
Exactement, exactement. Oui, oui, tout à fait.
Bon, alors, il s'agit peut-être de définir de façon positive aussi ce que nous sommes, parce qu'on peut avoir tendance par facilité à dire l'Europe, c'était pas l'Union soviétique, jadis, et puis l'Europe, c'est pas l'Amérique, l'Europe, c'est pas l'Islam ou c'est pas l'Afrique, en positif.
D'abord, l'Europe, elle a existé dans ses origines. Ce que Rémi Soulier vient de rappeler, et ce qui a été l'un des thèmes, le thème de Pierluigi Locchi, dans une des interventions de la matinée, l'Europe, elle a existé, l'Europe des origines, elle a existé lorsque le monde européen ne s'était pas encore dispersé. Donc, elle a déjà existé. Et tous les peuples européens sont les héritiers de ce monde-là. À partir de ce passé commun, il y a la possibilité de penser à un avenir qui ne sera pas forcément un avenir centralisé et centralisateur, mais qui peut être un avenir commun.
Alors, dans cet héritage et dans cette plus longue mémoire, que faut-il retenir comme fait, mais peut-être aussi comme mythe mobilisateur pour être capable de nous retrouver et de peser?
Alors justement, le cahier de ce point de vue-là expose d'une manière très, non pas exhaustive, ça n'aurait strictement aucun sens, mais d'une manière aussi complète que possible un certain nombre d'axes, en se référant à la question des langues, en se référant également, et c'est très important, à la question des arts, de la beauté. Il y a un bel article d'Ivan Drumaguet sur le Quattrocento. Il y a une idée européenne de la beauté, il y a une idée européenne de la représentation, une idée européenne du corps. Il y a également une idée européenne de la langue à travers les œuvres. et à travers les pensées. On trouvera dans ce cahier des références précises à, donc je vais parler de la peinture du Quattrocento, on pourrait parler également dans un article de Benjamin Demélé à Cézanne et à la Sainte Victoire de Cézanne, qu'il lit d'ailleurs avec, il trace un parallèle très, très beau, très éclairant avec le Japon, avec l'idée, la manière dont les Japonais, eux, représentent l'espace et le paysage. On trouvera également des spécificités, des axes, des focus autour de la pensée, autour de la philosophie. Il y a un article de Fabien Niesgoda que je citais précédemment, mais pour un autre article, en l'occurrence, consacré à Machiavel et à Fichte et Hegel, lecteur de Machiavel. Donc c'est une manière aussi de voir comment l'Europe et les Européens, au sein même des peuples qui les constituent, c'est-à-dire des nations, il y a un article consacré au traité de Westphalie 1648, donc à la constitution aussi des nations au sein de l'Europe, mais c'est une façon de voir comment cette manière qu'ont les Européens de penser le monde, de le voir au sens le plus artistique, au sens de l'image et au sens de l'imagination également, donc d'imaginer le monde également, de voir comment les Européens n'ont cessé tout le long de leur histoire de mettre en avant ces singularités-là qui les distinguent sans les opposer nécessairement à d'autres civilisations. Je parlais du Japon, on pourrait parler de la Chine, on pourrait parler d'autres immenses, de l'Inde, d'autres immenses civilisations, mais tout ceci constitue un corpus, une approche, une vision, encore une fois, c'est le mot qui me paraît le plus juste, à travers différents langages symboliques, que ce soit ceux des mots ou ceux des couleurs, des sons, des formes en général. L'Europe a porté très haut la splendeur de la forme, et elle l'a portée d'une manière très singulière.
Alors vous avez parlé à la fois des traités de Westphalie et puis aussi des autres civilisations. Est-ce que ce n'est pas le moment d'aborder la façon européenne des relations internationales et de la pratique diplomatique ? Aujourd'hui, la France a supprimé son corps diplomatique, au moins ça le mérite de la clarté. Quant à l'Union européenne, elle n'a pas encore, j'allais dire Dieu merci, de corps diplomatique propre. Mais surtout, ce que l'on constate, c'est une tournure d'esprit et une manière d'être dans les rapports aux autres, qui est beaucoup plus violente que ce qu'on pourrait l'imaginer. C'est-à-dire que ceux-là même qui parlent d'Europe universelle et des valeurs universelles ont un rapport extrêmement violent à l'altérité. C'est-à-dire qu'aussitôt que le moindre pas de côté est fait par d'autres sur ces fameuses valeurs, eh bien, ils sont rejetés dans le camp du mal et voués à soit la conversion à nos valeurs, soit à la destruction et en tout cas aux enfers. Quelle serait cette façon de retrouver une diplomatie et un rapport aux autres civilisations qui soit proprement européen?
Ce serait vraisemblablement, c'est ce qui me paraît le plus radical, remettre en question précisément l'universalisme dont vous avez parlé, l'idéologie universaliste. C'est-à-dire que cette manière pseudo-ethnocentrique de se penser comme étant soi-même les créateurs et les porteurs de je ne sais quelles valeurs universelles ou de je ne sais quel universalisme, au nom de quoi, en effet, les guerres, les conflits se propagent, au lieu de tenir compte du fait de la guerre, effectivement, du fait polémique, du fait du combat, mais du fait du combat dans la reconnaissance de sa propre identité et de celle de l'autre, évidemment. Pour reprendre les formules de Jean-Yves Le Gallou tout à l'heure à propos de A et non-A, c'est pareil, du point de vue, il y a A et il y a non-A, et ce n'est pas la même chose. Et puis il y a A et il y a B, enfin bon. Mais si A se dit, admettons l'Europe, porteur des valeurs universelles ou de l'universalité ou de l'universalisme, au nom de cet universalisme, on a un double mouvement, un mouvement d'autodestruction, c'est-à-dire qu'on ne se pense soi-même que comme ayant la transparence de l'universalité, et puis un autre mouvement d'agression, c'est le mondialisme, c'est l'expansion, le mondialisme étant l'idéologie qui appuie, qui accompagne le processus de mondialisation. Donc dans ces conditions, parler de diplomatie, comme vous l'avez fait avec raison, c'est-à-dire parler de politique au sens noble du mot, de politique au sens de Julien Freund, au sens de Carl Schmitt, qui sont présents dans ce cahier, Carl Schmitt en particulier, dans ce cahier du Paul Iliade. Donc parler de politique au sens noble du mot, et donc de soi et de l'autre, et parler à l'autre à partir de soi, suppose une distinction L'autre n'est pas moi et je ne suis pas l'autre. Et donc une certitude sur ce que l'on est nous-mêmes. À partir du moment où vous faites le promoteur d'un universalisme abstrait, de valeurs, comme ils disent sans cesse, vous absolutisez l'autre comme ennemi.
Et la guerre. Et la guerre.
Et la guerre, ce qui va avec, bien entendu. Vous faites de l'autre une figure du mal, un monstre.
Ce qui arrive quand on fait la guerre pour la démocratie et les valeurs démocratiques, finalement.
Exactement, exactement.
Et on retrouve ici ce qu'on disait tout à l'heure sur le caractère idéologique et centralisateur, puisqu'évidemment l'universalisme est idéologique profondément, c'est un principe théorique qu'on va tenter d'appliquer ensuite à tous les peuples pour nous détruire de l'intérieur, puisque si nous sommes universels, effectivement, nous n'avons plus de spécificité. C'est pour ça que les élites européennes, aujourd'hui elles-mêmes, par leur universalisme, nient la spécificité européenne, ou ne la mettent en avant que pour nous culpabiliser, et en même temps, on veut agresser les autres en leur imposant ce système idéologique de valeurs, toujours d'ailleurs avec ce système centralisateur. Tout l'opposé d'un système organique, d'un système qui part de la base et des libertés fondamentales et qui du coup accepte aussi, comme à l'intérieur de notre espace de civilisation, on accepte une vraie subsidiarité, de la même manière, on accepte aussi que les autres aires de civilisation n'ont pas forcément les mêmes visions, qu'ils fonctionnent pas de la même manière, on ne fait pas d'ingérence chez eux, on gère des relations diplomatiques avec eux, des relations d'intérêt, des relations, pourquoi pas, d'échanges commerciaux ou même éventuellement culturels, mais en respectant leurs spécificités, en exigeant évidemment d'eux qu'ils respectent la nôtre, ce qui veut dire d'abord accepter que nous avons notre identité et qu'on la défend, ce que ne font plus nos élites aujourd'hui.
Oui, ce qui veut dire qu'une Europe européenne serait beaucoup moins belliqueuse qu'une Europe se référant simplement à des valeurs abstraites.
Absolument.
Pour être très très clair.
Bien sûr, bien sûr.
Absolument. Ça rendrait moins insupportable aux autres.
Absolument.
Aussi, probablement.
Et il faut rappeler ce point fondamental, c'est que l'universalisme, qui est l'idéologie dominante aujourd'hui, en un trait dominant, est un impérialisme, systématiquement. Il est par essence, par nature, un impérialisme. Puisque dès lors que vous proclamez que vos valeurs sont universelles, c'est-à-dire qu'elles sont valables pour le monde entier, qu'elles feront le bonheur du monde entier, vous avez évidemment la tentation de vouloir les imposer.
Mmh. Ce qui est au cœur de cette vision universaliste, c'est une haine du réel, un rejet du réel tel qu'il est. Et le rejet de ce réel d'ailleurs, c'est-à-dire des différences, tout simplement, le rejet de ce réel aujourd'hui a abouti à des aberrations, on le voit très bien, dans l'apologie par exemple du transsexualisme, et l'idée que la nature elle-même, dans les formules de la sexuation, devraient être corrigées, et devraient être revues. Au nom de quoi ? Au nom d'un universel, d'une espèce d'androgynat absolument fantasmé, disons, et à certains égards très délicate à penser. Mais c'est ce même rejet du réel qui est à l'œuvre dans l'universalisme.
Oui, alors, même la biologie empêche l'émancipation, donc supprimons la biologie.
C'est ça, exactement.
Absolument. Et alors le remède à cette pathologie, entre guillemets, qu'entraîne cette dominance de l'idéologie universaliste et de l'égalitarisme, qui est aussi un de ses corollaires, c'est le réenracinement, certainement, on en parlait tout à l'heure, dans notre identité profonde, qui passe par la conscience du temps long, ce que fait l'Institut Iliade. L'Institut Iliade s'intitule l'Institut Iliade pour la longue mémoire européenne, et qui passe aussi par l'enracinement de notre dimension culturelle. Et là, on revient au combat culturel dont on parlait tout à l'heure, au fait que ce qui fonde, d'ailleurs, la proximité des différents peuples européens, malgré les très nombreuses différences, malgré les heurts historiques qui ont pu opposer ces peuples, ce qui fait leur spécificité, c'est qu'ils ont justement un courant culturel, une matrice culturelle commune, et ce depuis en réalité au moins 3000 ans, depuis les grands récits homériques, depuis les grandes mythologies celtiques, nordiques, germaniques, dans lesquelles on trouve, romaines, grecques, dans lesquelles on trouve beaucoup de correspondances. Et je crois qu'on a une interruption.
Oui, continuez. Concluez.
Donc ce lien culturel, c'est ce qui nous relie, et c'est ce qui est mis beaucoup en avant au colloque. Il faudra qu'on en parle après la...
On en parle juste après une courte pause. Nous allons passer à un Bobino qui va rappeler que nous sommes sur Radio Courtoisie et que Radio Courtoisie ne vit que grâce au soutien de ses auditeurs.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Judéo-chrétienne, tu peux dire pagano-chrétienne ?
Non. Alors, chers amis, nous reprenons le fil de notre conversation. Nous avons vu que nous étions confrontés quand même à un problème de définition. C'est-à-dire que j'ai un peu le sentiment que, dans un premier temps, l'Union européenne se définissait uniquement à travers des principes, des constitutions, des valeurs extrêmement abstraites, mais à mesure que se lèvent dans le monde d'autres civilisations, des états-civilisations, à mesure aussi que jusque sur notre propre sol se produit une forme de choc des civilisations, non désiré mais réel, il a été nécessaire de retrouver cette notion de civilisation qui s'impose. Mais cela suffit-il ? Encore faut-il savoir comment nous définissons la civilisation qui est la nôtre ? Nous avons déjà effleuré cette question en évoquant le thème de l'Occident comme étant notre civilisation. Ne faut-il pas aussi traiter la question du judéo-christianisme ? On entend parfois dire que notre civilisation serait une civilisation judéo-chrétienne. Que pensez-vous, de Rémy Soulier, de cette expression ? Est-elle vraie, fausse, à moitié vraie, exagérée ?
Alors, tout dépend ce que l'on entend par judéo-christianisme. S'il est fait référence à la notion de judéo-christianisme dans une perspective occidentaliste, c'est-à-dire qui consiste à associer l'État d'Israël, comme la Nouvelle-Zélande, comme l'Australie, comme les États-Unis, à cet ensemble occidental, et donc à raisonner en termes politiques, géostratégiques, oui, et politique au sens le plus large du mot, on ne définit pas ainsi une civilisation. Si on définit la civilisation européenne en intégrant les caractères religieux, la première chose à dire, évidemment, c'est que l'Europe originelle, fondatrice, mémorielle, est l'Europe dite païenne. C'est un mot qui est... on peut discuter de la validité. C'est peut-être un mot, parce que c'est un mot tout simplement qui a été défini par le christianisme naissant, et donc c'est le mot qui désigne un ennemi. Et désignant un ennemi, c'est un mot qui est peut-être qui est donc connoté de manière négative, à tort à mon avis. Mais donc c'est celui dont nous disposons aujourd'hui. Ben, continuons à l'utiliser. Donc le substrat de l'Europe est évidemment païen, dans sa dimension celtique, grecque, romaine, balte, slave. Et puis, l'Europe a également rencontré l'Orient, d'une certaine manière, à travers le christianisme. Et rencontrant l'Orient, le christianisme lui-même, et là, ça nous entraînerait dans des discussions considérables, hein, le christianisme a lui-même été, d'abord, il faudrait savoir ce qu'est le christianisme à partir de l'Évangile, mais enfin, on l'a défini chez nous sous la modalité du catholicisme, d'abord. Donc, le christianisme a été lui-même modifié au contact des populations européennes. Et le catholicisme, dans son aspect le plus populaire, le plus traditionnel au sens premier du terme, fait très bon ménage, c'est le moins ce que l'on puisse dire, et a fait très bon ménage pendant des siècles avec le paganisme. Le catholicisme et en particulier le catholicisme populaire, a synthétisé en quelque sorte les deux traditions. Et à l'autre bout, c'est-à-dire au terme le plus élevé, qui est le terme artistique, j'ai évoqué l'article d'Ivan Drumaguet sur le Quattrocento, les peintres de la Renaissance du Quattrocento peignent indifféremment avec la même jeune femme splendide, Vénus et la Vierge Marie. Ça, c'est très européen, me semble-t-il. C'est très européen. Alors, certains considèrent que, en toute rigueur, on doit parler d'héléno-christianisme. Pourquoi pas ? Bon, ce sont des étiquettes. Alors, héléno-christianisme, ce n'est pas une manière de minorer l'héritage hébraïque. Si on parle de christianisme, compte tenu de ce qu'a été le christianisme, qui n'est pas marcionite, c'est-à-dire qui n'a pas récusé la validité théologique, mystique de l'Ancien Testament, évidemment on a affaire avec l'Ancien Testament. Et on a affaire avec l'Ancien Testament de différentes manières. La manière de se confronter à l'Ancien Testament n'est pas la même chez les catholiques, chez les protestants. Là aussi, c'est aussi une des fractures de l'Europe. Le luthéranisme, la réforme a été une des fractures de l'Europe. Bon. Et donc, tout ceci constitue le sel, en quelque sorte, de l'Europe. Mais je crois qu'il faut garder en tête, à l'esprit, une forme de hiérarchisation, en quelque sorte, en partant du substrat et en partant de ce à quoi l'histoire récente a abouti, étant entendu que que nous n'en sommes même plus là aujourd'hui, puisque l'Europe, en tout cas de mon point de vue, est très largement en voie de déchristianisation elle-même. Donc on a dépassé les questions, la question proprement confessionnelle, disons. Ce à quoi l'Europe est confrontée aujourd'hui, ni plus ni moins, c'est une forme de nihilisme.
Sur cette question, si vous me permettez de réagir d'une formule, et avec toutes les limites de la personne beaucoup moins savante que je suis, le christianisme n'est pas propre à l'Europe, mais la façon de le vivre et de l'envisager, en revanche, oui, est propre à l'Europe.
Il y a une manière de comprendre le christianisme, effectivement, qui a été essentiellement, au moins pendant jusqu'au grand schisme d'Occident, qui a été la manière catholique, oui, effectivement.
Jean-Yves Le Gallo, vous voulez ajouter quelque chose ?
C'est une question qui a été abordée de manière très, très synthétique et je crois très profonde par l'un des premiers intervenants du colloque, Olivier Battistini, qui est professeur de grec à l'université de Corte. Et donc, j'invite nos auditeurs à se reporter sur cette contribution qui va être en ligne d'ici quelques jours sur le site de l'Institut Iliade et qui est disponible effectivement
dans les actes du colloque qui sont publiés par les éditions Livre Arbitre.
Voilà.
Dans le cadre d'un hors-série.
C'est ça. Très beau hors-série également, reprenant l'ensemble des communications. Mais je souligne avec Jean-Yves Le Gallo la qualité de l'intervention d'Olivier Battistini sur ce vieux débat entre Athènes et Jérusalem, hein, qui est loin d'être simple.
Oui, c'est-à-dire que...
Il y voit la fécondité du principe de contradiction.
Oui, tout à voilà. fait.
Oui, mais c'est là qu'il y a une tendance aussi, parfois, lorsqu'on se plonge sur ce qui caractérise et ce qui fait la singularité de l'Europe, un des truismes qui est avancé, c'est que ce qui ferait la singularité de l'Europe et de la pensée européenne, c'est la capacité à se décentrer. Ce qui est à la fois extrêmement vrai, puisqu'on est capable de se mettre à la place des autres et de s'observer par une position
critique
et surplombante nous-mêmes, c'est évidemment une énorme force.
Mais et une énorme faiblesse.
Mais aussi un énorme danger, car il ne faut pas rester uniquement dans les limbes et se souvenir qu'au-delà de cette capacité merveilleuse à se décentrer, nous avons aussi des caractères propres qu'il ne faudrait pas balayer d'un revers de main.
Évidemment, évidemment, l'essentiel c'est le centrement et le recentrement, bien entendu. Et d'ailleurs, le recentrement qui n'est pas perdition ne peut être effectué, ce regard critique, ce reflet dans le miroir ne peut être effectué que si l'on est soi-même profondément centré, bien entendu. Sinon, on se perd.
Oui, c'est ça, on pourrait faire un parallèle d'ailleurs avec peut-être la psychiatrie. Hein. Quelqu'un qui est capable de faire son autocritique, c'est extrêmement fécond, mais s'il finit par oublier qui elle est à se décentrer en permanence, eh bien, c'est un désorienté.
Ben, bien sûr, oui, on atteint une forme de folie, de psychose, oui, bien entendu, y compris dans la haine de soi, qui peut déboucher sur la haine de soi. Et ça, on le voit très bien à l'œuvre, hein, hélas.
Y compris d'ailleurs dans un certain nombre de projets des institutions européennes, puisque le colloque s'ouvrait en l'occurrence avec une intervention de Philippe Conrad qui présentait la façon dont la Commission européenne ou l'Union européenne présente la façon dont il faut enseigner l'histoire en Europe.
Exactement.
Alors c'est pour 50% de l'histoire universelle destinée à dire que nous sommes singuliers en rien, et les autres 50%, c'est de l'autoflagellation et de la culpabilisation, tant et si bien que la conclusion serait que ce qui nous singularise, c'est tout ce qui est détestable.
Exactement, oui.
Alors c'est très intéressant d'ailleurs l'introduction de Philippe Conrad, parce que ça correspond, il y a une vraie nécessité d'une histoire européenne. Et on pourrait tout à fait concevoir une histoire européenne commune où on met en scène tout ce qui est commun dans les phases artistiques, notamment qui se succèdent sur l'ensemble du périmètre européen, tout ce qui est commun dans la résistance aux forces extérieures. Et puis aussi, parce que ça fait aussi partie de notre histoire, les divisions intérieures. Les conflits entre les États-nations et la régulation des conflits avec les traités de Westphalie. Et donc, il y a matière à une vraie histoire européenne. Et moi, je ne suis pas choqué que l'Union européenne veuille préparer, au fond, un schéma d'histoire européenne, sauf que le schéma qu'ils construisent est un schéma complètement pervers et destructeur.
Un schéma de rééducation.
Un schéma de rééducation, oui.
Oui, et puis fondé sur la haine de soi, comme nous l'avons dit. Il est presque 19h, vous êtes bien sur Radio Courtoisie. Et à 19h dans notre émission, nous accueillons le sympathique Pierre Robin qui va nous faire une chronique intitulée « Les heures perdues ». Mais nous introduisons cette chronique par un petit intermède musicale qui pose l'ambiance.
Non. On envoie mon logo, plutôt, enfin mon thème.
Oui, c'est ça.
Ah bon, d'accord. C'est donc Heure perdue par Pierre Robin. Alors Pierre Robin va vous parler, comme mes augustes prédécesseurs, de l'Europe. Enfin tout au moins de l'Europe qu'il a ressentie étant enfant, parce qu'on commence toujours par avoir des émotions politiques assez tôt, fussent-elles fausses. Alors il y avait une espèce de légende, ou de climat, de nuages dorés européens quand j'étais enfant, dans les premières années de la Ve République. Une histoire d'unité, de plus jamais ça, de paix, de prospérité, de bon sens. Alors, en plus, cette histoire-là avait déjà des dates, des traités. Au lieu d'avoir Ryswick, Nimègue, Utrecht, ils avaient donc la création du Conseil de l'Europe en 1949, le traité de Paris en 1951 qui va donner la communauté économique du charbon et de l'acier, le fameux traité de Rome de 1957 qui lui va accoucher de la CEE et d'Euratom. Et plus tard, le marché commun, et jusqu'au traité de Lisbonne de l'Union européenne en décembre 2009. Mais là, le climat s'était un peu gâté entre-temps. Alors, à toute histoire, il faut des pères fondateurs, ou peut-être des figures saintes. Alors là, on est une espèce de sainte vitrail avec Robert Schuman, qui présente mieux d'un point de vue traditionnel, encore que superficiellement, que Jean Monnet, qui sent un peu trop l'agent américain. Alors, Robert Schuman, s'il était presque un produit de synthèse européen, il est né à Luxembourg, dans le Grand-Duché du même nom, de parents luxembourgeois et lorrains français. Alors il a symbolisé toutes les contradictions de l'Europe de l'époque, puisqu'il a été mobilisé en tant que lorrain annexé, en quelque sorte, dans l'armée allemande en 14-18, puis qu'il est la Lorraine ou la Moselle redevenue française, il est devenu député et... Quand il y a eu le cataclysme de 1940, il a été emprisonné par les nazis. Il s'est évadé, et tout ça, on s'est retrouvé en 1944-45. Alors, ce saint de vitrail, qui était chrétien, qui appartenait à cette génération de démocrates chrétiens qui feront l'Europe, l'italien Gasperi et le rhénan ou allemand Konrad Adenauer, eh bien, il avait quand même quelques petits péchés de jeunesse, puisqu'il avait appelé à l'armistice en 1940, et qu'il avait voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, et faisait même partie, je crois, de son tout premier gouvernement. Alors, il a été un peu embêté pour ça, notre saint de vitrail, vers 1944, mais De Gaulle a décidé qu'on pouvait passer l'éponge. Et puis, après tout, De Gaulle était une autorité, en 1944 particulièrement, donc il a continué sa carrière, et elle n'a fait que croître et embellir, puisqu'il a été ministre des Affaires étrangères, président du Conseil, et donc un des pères fondateurs de l'Europe, telle que nous l'avons connue de plus en plus. Alors, on va passer du saint à sa bannière. Par exemple, le drapeau européen. Et là, il y a des légendes urbaines qui courent. Il a été adopté en 1955 avec 12 étoiles d'or en cercle. Alors, on s'est demandé, et certains se le demandent encore, si ce n'était pas un symbole marial qui témoignerait de l'engagement chrétien ou démocrate chrétien de Robert Schuman et de tous ses amis. En fait, il semblerait que non. C'est une légende urbaine ou une légende européenne, si je puis dire. Parce qu'il n'y a pas de référence à la religion dans le décret qui établit le drapeau. Alors d'autres ont fait observer que ce décret a été promulgué le 8 décembre 1955 et que ça correspondait à la journée de l'Immaculée Conception cette année-là. Mais bon, c'est une heureuse coïncidence, si je puis dire, et rien de plus. Il faut dire que, par exemple, la Turquie s'était opposée à un précédent projet où il y avait une croix. Donc vous voyez, il y a déjà quelques tensions sur les emblèmes européens. Et on peut dire aussi, rappeler que cette légende a été assez vivace pour qu'en 2017, un certain Mélenchon dépose un amendement à l'Assemblée nationale pour qu'on retire le drapeau européen, lequel présenterait un symbole confessionnel. Donc vous voyez, les erreurs ont la vie dure, si je puis dire.
Alors tout ça, c'est une vie très institutionnelle qui était destinée à faire passer, à représenter de l'Europe dans l'esprit des citoyens européens. Oui, c'est presque ça le projet. Mais pour faire passer cette idée-là, à faire vivre, il y a quand même toute une autre machinerie qui s'est mise en place. Est-ce que vous voulez bien nous parler de vos souvenirs de jeunesse à ce sujet?
Oui, absolument. Il y a un soft power européen. Avant, je dois dire, pour revenir à notre...
Nous sommes sur Radio Courtoisie, hein, si vous pouviez trouver.
Pardon ? Oui, bon, y a des faux saints de vitraux. Je pense que les catholiques en sont bien conscients quand même. Et par exemple, on peut dire que la thèse, enfin la crédibilité de ce point de vue-là de Schuman est améliorée par le fait qu'il est en processus de Il n'est pas encore canonisé, il n'est pas encore béat, mais il est déjà vénérable. Il y a une procédure au Vatican pour faire de lui ce qu'il a peut-être été au fond de lui-même. Mais ça, nous ne le saurons jamais. Donc oui, effectivement, pas d'Europe, c'est un peu comme l'Amérique, sans soft power. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'un des puissants moteurs de la construction européenne en France, ça sera une émission de télé et de jeux télévisés. C'est-à-dire que là, on revient à De Gaulle, qui n'était pas très fédéraliste européen, beaucoup moins que Jean Monnet, je pense, ou même que Robert Schuman, mais il avait un grand dessein, De Gaulle, c'était la réconciliation franco-allemande. Alors, on connaît les étapes, il y a une messe commune en juillet 62 à Reims, il y a une visite de plusieurs jours à De Gaulle en RFA en septembre 62, il y a le fameux traité de l'Elysée, enfin, naguère fameux, De Gaulle Adenauer en janvier 63, qui est d'ailleurs l'année où Robert Schuman nous quitte. Et il y a cette volonté de De Gaulle de faire un nouveau pôle franco-allemand, comme un centre d'une nouvelle Europe qui échapperait assez largement aux Américains. Bon, il aura beaucoup d'illusions avec les Allemands, mais avec Adenauer, le courant semble passer. Et il propose un soir, où il reçoit, je crois, dans sa propriété la boisserie, Adenauer et sa femme, et il y a aussi Alain Perfit, qui est le ministre de l'Information de l'époque, et il dit « il faudrait diffuser cette réconciliation franco-allemande dans le fond de la population française, et on pourrait pour cela se servir de la télévision ». Et là, il commence à citer Guy Lux, qui a effectivement triomphé avec son jeu Interville, qui opposait des villes de France à grand renfort de vaches landaises ou d'attractions.
Toboggans et trampolines, etc.
Oh oui, ça n'a pas manqué, et les rires non plus. Et pourquoi ne pas transposer ça au niveau européen? Guy Lux et le producteur de l'émission, dont le nom m'échappe provisoirement, se mettent au travail, et ça va donner, à partir de 1965, Jeux sans frontières, qui sera principalement au début une confrontation franco-allemande. Il y aura toujours des vachettes, encore que les Allemands finiront par dire que ces pauvres vachettes sont maltraitées. Mais à ce détail près, la mayonnaise va prendre largement, des tas de pays vont se retrouver associés, d'abord l'Italie, il y aura un arbitrage suisse normal, neutre, et pas mal de pays, jusqu'à la Grande-Bretagne d'ailleurs. Alors bon, ça c'est la partie ludique, et c'est vrai que on peut dire que Guy Lux a fait beaucoup, peut-être pas autant que Robert Schuman ou que Konrad Adenauer, encore que, pour réconcilier une vingtaine d'années après la catastrophe ou une trentaine d'années après la catastrophe, les deux peuples. Parce que l'émission aura beaucoup de succès. Alors il y a aussi dans le soft power les chansons. Là, ça m'oblige à revenir sur le concours télévisé de l'Eurovision, dont la première séance a lieu à Lugano en mai 1956. Alors voici deux jours, pour ceux que ça intéresse, on a fêté le 50e anniversaire, oh mon Dieu, comme le temps passe, du triomphe d'Abba avec sa chanson Waterloo, qui après tout renvoie à l'histoire de l'Europe dans ce qu'elle a de plus chaotique. Et on peut dire que cette Eurovision est un peu à l'image de l'Europe, parce qu'on finira par y intégrer Israël, le Maroc, la Turquie. Bon, voilà, c'est l'Europe sans frontières, on peut dire. Mais le germe était dans le fruit, si je puis dire. Il y a aussi, et alors là j'y suis particulièrement sensible en tant qu'ancien jeune des années 60, c'est 70, la philatélie. Elle a beaucoup contribué à ancrer superficiellement et provisoirement dans mon idée, l'idée d'une Europe dynamique, amicale, progressiste au sens littéral du mot. Et alors je me souviens que, par exemple, à partir de 1956, tous les pays affiliés à l'Union européenne ou à la communauté européenne vont émettre deux vignettes sur le thème « Europa ». Alors, ils auront tous le même logo, d'Andorre à la Norvège. Un jour, ça sera un vol de colombes plutôt composant une grande colombe. Ce sera des fleurs, ce sera de toutes sortes d'idées. Et ça dure encore à ce jour. Alors, sauf qu'évidemment, on constate, et c'est amusant, tout le monde rejoint ce mouvement postal déjà, sinon politique. Et on constate que, par exemple, même l'Espagne franquiste rudement franquiste de 1960, participe de l'opération. Et là aussi, on voit la Turquie aussi avait pointé son nez vers 1959. Donc voilà la philatélie. Et un autre grand souvenir philatélique de cette espèce d'idéal européen plein de roses et de doré, c'est l'émission en 1963, oui c'est ça, des grands personnages européens. La France émet cinq timbres qui s'illustrent avec une personnalité censée illustrer le pays, les cinq autres membres du marché commun de l'époque. Alors, pour l'Allemagne, c'est Beethoven, même si c'est un peu politiquement anachronique, mais enfin, c'est lui. Je découvre l'existence d'Hugo de Groot, qui est un humaniste et un diplomate des débuts des Pays-Bas, ou des Provinces-Unies, comme on dirait, au XVIe siècle. Alors, il est amusant aussi que l'Italie soit représentée par Mazzini, qui était quand même un révolutionnaire républicain, garibaldien, mais qui, contrairement à Garibaldi, était prêt à lutter contre la monarchie même de Savoie. Donc voilà, comme les teintes en plus sont beaux, avec de belles couleurs, ça a contribué aussi à cette espèce de nuage rose européen auquel je ne demandais qu'à croire. Alors, un petit détail quand même qui prouve la bonne volonté des Français, c'est que tous ces timbres ont la même valeur faciale de 20 centimes. Il n'y en aura pas un plus haut que l'autre. Même le Luxembourg, qui est illustré par un obscur industriel du nom d'Émile Mayrich, a le droit à sa vignette à 20 centimes. Donc voilà pour le soft power. Alors, pour revenir à la politique plus incarnée, il y a le référendum sur l'entrée éventuelle de la Grande-Bretagne, plus du Danemark, de la Norvège et de l'Irlande. Enfin, c'est surtout la Grande-Bretagne qui compte dans le débat. En avril 72, voulu par Georges Pompidou. Alors, je pense que c'est peut-être la toute dernière fois qu'il y a un engouement pour l'idée européenne pas trop chiqué. Je veux dire, il y aura quand même, en dépit de l'opposition de la gauche, l'appel au boycott, etc., il y aura 60% de participation. Et 68,32% de oui. C'est la dernière fois que les européistes obtiendront de tels scores, à mon avis. Donc, et on peut dire un petit mot de l'extrême droite, d'ailleurs, puisqu'elle est plutôt contre, même si elle était pour la communauté européenne de défense, en tout cas une partie d'entre elles, dans les années 50, me semble-t-il. Je me souviens que le journal Rivarol, qu'on ne peut pas taxer de modérantisme, s'intitulait de hebdomadaire de l'opposition nationale et européenne. Et il y avait des dessins de la dessinatrice Maison, Char, qui n'est pas mauvaise dans sa forme en tout cas, et qui représentait très fréquemment, ça revenait dans Rivarol, un petit bonhomme brandissant un drapeau avec un grand E noir. Or, c'est ni plus ni moins le symbole du mouvement fédéraliste européen. Donc, il ne serait peut-être pas content qu'on leur rappelle ça, mais enfin, ça a quand même existé dans les années 70. Alors, quoi d'autre ? Bah toujours, au soft power, il y aura une espèce de dernière chance culturelle. Enfin, dernière chance, non.
Plutôt mais que le soft power, comme nous sommes sur Radio Courtoisie, pourrait vous dire quelque
le
chose
pouvoir
du genre.
Doux. Voilà.
Le pouvoir doux de séduction, l'opération de promotion,
absolument.
Quelque chose
c'est
de cet ordre-là.
Voilà. Bah, Marilyn Monroe était un élément important avec James Dean à un moment du soft power ou du doux pouvoir américain. Voilà.
À l'égal de Brigitte Bardot pour la France.
Absolument. Sauf que Brigitte Bardot n'est pas intervenue au Vietnam, si je puis me dire. Donc voilà. Alors il y aura aussi, ça me touche parce que ça éveille des souvenirs en moi, dans le monde du rock, de la musique qu'on appellera New Wave à la fin des années 70, un engouement général pour l'Europe, où on en aura la bouche pleine, je pourrais vous citer 20 chansons où il est question d'Europe en anglais.
C'est un mouvement, si je ne me trompe pas, musical, proprement européen.
Absolument. Alors les deux fondateurs de tout ça, c'est David Bowie, qui est anglais au départ, et qui avait passé 2 ans à ses danses aux États-Unis, et même dans le pire parti des États-Unis de ce point-là, la Californie. Il avait décidé de quitter tout ça. Il avait eu cette phrase, il était temps que je quitte la Californie, je ne voyais plus que des dealers et des satanistes. Ce qui donne une appréhension des produits de terroir qu'il pouvait consommer là-bas. Et il s'est ressourcé avec son ami Iggy Pop, qui lui est américain, à Berlin, à l'époque du mur, près du mur. Et ça lui a inspiré une chanson, Heroes, qui a eu beaucoup de succès, dont certains ont été jusqu'à dire « Ah oui, ça a fait tomber le mur de Berlin ». Non, je ne pense pas, mais ça a quand même créé un climat. La tendance était de nouveau au retour sur l'Europe. Alors il y avait des groupes qui ont fait parler à l'époque en France, Marquis de Sade, je pourrais en citer une vingtaine, mais ça ne vous dirait pas grand-chose, mais c'était très tendance d'être européen.
Avec une esthétique européenne, une façon de se présenter très européenne.
Très souvent, c'était fini le jean et les trucs comme ça, c'était des costumes gris. Et alors j'en arrive aux autres pères fondateurs, ceux-là musicaux d'un certain idéal européen, c'est Kraftwerk. Non seulement ils sont allemands, mais en plus ils ont adopté un look absolument rétro de cadre supérieur des années 50, à cravate, très sérieux, avant de se transformer carrément en robot. Ils chantaient l'autoroute, les plaisirs de l'autoroute, de la radioactivité, de la radio tout court et de la robotique. Donc c'était totalement subversif et ils insistaient sur leurs racines européennes. Ça, même s'ils sont devenus un groupe mondialement connu et reçu, mais vraiment ils ont donné le là. C'était vraiment, il fallait faire comme Kraftwerk, il fallait être européen, il fallait être sérieux, il fallait arrêter d'être des cow-boys américains. C'était une tendance lourde. Ça a duré ce que ça a duré, mais ça a existé. D'ailleurs, je propose que nous entrions, sinon dans le vif, du moins dans le mélodique du sujet, avec un extrait de Trans-Europe Express de Kraftwerk.
Alors voilà, Pierre Robin, cet extrait donc de la chanson Trans Europa Express de Kraftwerk fait référence à un train qui permettait aux Européens de voyager, qui était lui aussi dans un cadre de promotion de cette idée européenne et fraternité entre les peuples européens.
Et qui mettait 4 heures entre Paris et Bruxelles.
Ah bah voilà du vécu.
Alors, 4 heures entre Paris et Bruxelles, oui. Ah, ça aurait peut-être ralenti la construction.
Mais c'était extrêmement confortable parce que...
Oui, parce que la référence c'était l'Orient Express, bien entendu.
Il y avait un restaurant agréable, voilà. Mais ça mettait 4 heures ça a été tué par le Thalys qui maintenant met 1h25. Voilà.
Oui, parce que
il n'est pas arrêté en cours de route.
Parce que la référence de ce Trans-Europa Express, c'était bien sûr l'Orient Express.
C'était le Trans-Europe Express qui existait vraiment.
D'un art de vivre et de voyager entre Européens. Le but n'était pas d'aller vite, mais d'approfondir une certaine façon.
C'est une idée française, cette chanson, qui a été soufflée aux gens de Kraftwerk alors qu'ils dînaient au Train Bleu, la brasserie de la gare de Lyon. Et quand ils ont lancé...
brasserie aussi.
Oui, oui, tout à fait, Art Nouveau, Jugendstil, comme diraient les Allemands. Et même quand ils ont lancé, ils ont eu une idée promotionnelle pour lancer ce disque, qui a été d'ailleurs un très gros succès, ils ont trimballé la presse jusqu'à Reims dans des caves à champagne. Départ Gare de l'Est, bon, il y a une grande partie des critiques qui étaient devenues un peu inaccessibles à la raison et à la mesure à la fin du séjour, parce qu'ils sont quand même allés visiter les caves. Mais enfin, on a des photos au Kraftwerk, qui sont en costume cravate, impeccable. C'était tellement... réactionnaire et donc révolutionnaire dans le contexte musical de l'époque que ça a marqué. Donc voilà.
Oui, parce qu'il faut dire que Kraftwerk, c'est la fin de la fascination pour l'avachissement hippie.
Absolument. Alors qu'eux-mêmes ont eu leur petite phase hippie, on a des photos accablantes d'eux en cheveux longs et en chemise pas très... Mais pour autant...
Attention à la discrimination capillaire, je tiens à la maîtrise de l'antenne, même si la loi n'est pas encore votée, je ne voudrais pas qu'il y ait un délit de discrimination capillaire commis sur Radio Courtoisie.
Merci de cette maîtrise de l'antenne.
Bravant toutes les lois, ils sont restés assez fidèles aux cheveux courts et à un look assez strict, ou à une allure assez stricte. Bon, donc voilà, ça fait
alors part. Il y a un autre moment de nostalgie qui est quand même assez sympathique et qui fait aussi référence à un imaginaire de gare, d'hôtel et de voyage. C'est la nostalgie qui s'est emparée de l'Europe au tournant des années 80, si je me souviens bien, pour la Mittel Europa.
Absolument. Alors c'était un peu suspect idéologiquement, parce que généralement ceux qui regrettaient l'Empire austro-hongrois, parce que pour eux c'était l'exemplaire de démonstration de la cohabitation harmonieuse et quasi fédérale dans les faits, sous une double couronne, de plusieurs peuples. Je me souviens d'avoir lu dans Globe, un journal qu'on ne présente plus, et qu'heureusement d'ailleurs on n'a plus à présenter, qu'il y avait des tas de choses. On était très européens au fur et à mesure qu'on était antinationaliste ou antinationaliste. Ah, ça, l'Autriche-Hongrie, c'était merveilleux, c'était une ébauche de quelque chose, la tolérance, patati patata. Bon, historiquement, c'est faux, c'était une espèce de survivance féodale quand même, il faut le dire, et beaucoup des peuples qui étaient là ne s'aimaient pas beaucoup et s'opprimaient les uns les autres quand ils pouvaient. Les Hongrois, avec les Slovaques et peut-être les Croates aussi, c'était pas très cool. Les Italiens ne songeaient pour la plupart qu'à rejoindre le reste de l'Italie. Mais il y a eu une légende, alors on parlait de Robert Musil, de Josef Roth, la crypte des Capucins, la marge de Radessi, tout un folklore, ah oui, on a perdu quelque chose d'européen, vraiment, mais sauf que cette construction n'est pas viable et elle s'est écroulée, mais dissoute.
Et puis Musil, c'était une chose, mais enfin on parlait aussi de Stefan Zweig, qui est très bien, mais aussi beaucoup de Freud.
Oui.
Le monde d'avant de Stefan Zweig, c'est ça.
Ouais.
Stefan Zweig parle du monde d'avant, mais d'une bascule aussi, c'est-à-dire que...
Absolument. Si je peux intervenir, rebondir, cette chronique est très, très intéressante en ce qu'elle a montré aussi la manière dont il y a deux Europes qui sont présentées au peuple. C'est un rejoint un peu ce qu'on disait en début d'émission, quand on disait qu'il y a l'Union européenne de Mme von der Leyen et des mondialistes qui, d'une certaine manière, usurpent le terme européen en s'affirmant européen, alors qu'en réalité, ils sont mondialistes et au service d'autres puissances, de ce fameux Occident qui vassalise l'Europe à son ancienne colonie d'Amérique. Mais du coup, ça se retrouve aussi dans la propagande européenne, c'est-à-dire que ceux qui sont les tenants de cette idéologie mondialiste qu'ils maquillent en se présentant comme européen pour séduire des gens qui sont quand même enracinés dans notre identité civilisationnelle, eh bien, l'utilise aussi dans la propagande. On a cité tout à l'heure l'exemple de l'Eurovision, qui est très intéressant. C'est une très très belle idée, l'Eurovision. D'ailleurs, ça a donné historiquement à certains moments de très belles chansons. Mais on voit aussi la manière dont l'Eurovision a évolué. Il est très symptomatique du fait qu'il y a une idéologie, là encore d'ailleurs, centralisatrice et théoricienne, qui va pervertir l'élan positif de ce concours, puisqu'on commence à y accepter des pays qui ne sont pas nécessairement européens, on l'a dit tout à l'heure, voire pas du tout, et aussi parce que finalement on aboutit, à travers la volonté soi-disant de promouvoir la diversité européenne, on aboutit en fait à une uniformisation notamment linguistique, puisque depuis 1999, l'obligation qui existait avant que chaque pays concourt en présentant une chanson dans sa langue à l'Eurovision a sauté, et aujourd'hui quasiment tous les pays présentent des chansons en anglais, ce qui est une aberration, et on veut promouvoir la diversité européenne en montrant en réalité une identité linguistique. Ce qui me ramène peut-être pour finir au colloque qui se tenait samedi dernier à l'Institut Iliade, organisé par l'Institut Iliade dans la Maison de la Chimie, parce que l'Iliade, pour remplacer ça, finalement on a des élites aujourd'hui qui, on l'a dit, assédit, qui trahissent notre civilisation. Il y a deux solutions pour résoudre ce problème. Le premier, c'est évidemment de créer de nouvelles élites. Et c'est tout le rôle de l'Iliade, de former de nouvelles élites qui soient vraiment enracinées dans notre identité européenne. Et puis, il y a tout ce qui va relever justement du combat culturel qui cherche à mettre en avant la réelle diversité européenne et la réelle richesse européenne. Par exemple, au colloque Iliade, il y avait également un certain nombre de, parmi toutes les personnes qui étaient présentes, il y avait un certain nombre d'Européens qui pouvaient d'ailleurs s'exprimer dans leur langue et qui l'ont fait.
C'était notre Eurovision à nous.
Absolument.
Il n'y avait pas les Turcs.
Et puis, notamment. Et c'est très intéressant aussi, l'Iliade et son colloque, ça n'a pas seulement été une réflexion à travers les conférences, ou à travers bien sûr l'excellent cahier d'études, donc des réflexions de fond, mais c'est aussi toute cette dimension artistique à travers des stands d'artisans, d'artistes qui étaient présents, une carte blanche artistique qui a mis en avant de très nombreux artistes qui réalisent de superbes tableaux, qui réalisent des sculptures, qui réalisent des œuvres originales, d'essence européenne ou s'inspirant de l'essence européenne, tout en se montrant parfois en archéo-futuriste, comme aurait dit Guillaume Fay, c'est-à-dire en sachant puiser dans nos racines, tout en se projetant le futur. Toute cette dimension culturelle était présente dans ce grand colloque, cet opéra européen, comme disait Jean-Yves Le Gallou en d'autres occasions.
Eh bien, écoutez, merci Thomas de nous faire part de votre enthousiasme à travers les initiatives de soft power, de promotion de notre vision de l'Europe. Toutefois, Pierre Robin voulait conclure sa chronique parce qu'il nous a fait part de son enthousiasme et de ses souvenirs, enthousiasme et mélancolique, mais il y a quand même eu d'un certain enthousiasme pour l'Europe à travers ses initiatives, mais tout ça finit mal.
Oui, tout ça finit mal.
Au tournant.
Je vous avais laissé avec le succès politique intérieur de Georges Pompidou avec son référendum sur l'Angleterre, mais ça se passe en 72. Or, en 79, le climat a déjà assez changé pour qu'un homme de conviction bien connu comme Jacques Chirac fasse son appel de cochon, où il fustige la supranationalité, le parti de l'étranger. Bon, évidemment, c'est Chirac, et il ne faudra pas beaucoup de mois pour changer son fusil d'épaule. Jacques Delors ayant, je crois, menacé tous les hommes politiques se positionnant contre la construction européenne de voir leur avenir politique compromis. C'est pas tombé dans l'oreille de ce sourd-là. Donc, mais malgré les mises en garde de Jacques Delors, et on constate que de plus en plus, le pays se fractionne. Je parle de la France, et évidemment, il y a ça arrive vraiment au jour avec le référendum de Maastricht 92. Tout le système fait une propagande pour le oui. Bah, ça passe, mais ça passe pas de beaucoup. Ce qui est déjà presque un Français sur deux qui traîne les pieds pour des raisons diverses et variées. Et ça va être encore plus fort en 2005, je crois, pour le référendum sur le projet de constitution européenne. Là, c'est nettement un échec pour les européistes, qui s'en consoleront en passant par-dessus la volonté du peuple, mais tout ça, vous le savez par cœur. Mais en tout cas, c'est fini, les histoires de petits oiseaux roses européens, de Robert Schuman et compagnie, c'est terminé. On sent vraiment que là, on a un pouvoir qui va à marche forcée contre la volonté de ces populations. Alors, y a eu le Brexit aussi, un sacré bémol aussi. C'était la preuve qu'on pouvait sortir de la maison, même si comme les Anglais, on n'y est rentré qu'à moitié ou un peu à la carte quand même. Mais ça s'est passé. Alors, on pourrait en parler encore de ce Waterloo européiste qu'a été le Brexit notamment. Je m'abriterai en guise de conclusion sur Victor Hugo, qui était assez partisan des États-Unis d'Europe, me semble-t-il. L'Europe ne peut être tranquille tant que la France n'est pas contente. En bas, à bon entendeur, salut.
Chers amis, bonsoir, vous êtes bien sur Radio Courtoisie. Merci Pierre Robin pour cette magnifique évocation à travers votre chronique Les heures perdues de l'Europe. Il nous reste 5 minutes pour conclure cette émission, pour dire tout ce que nous voulions. 2 minutes, me dit-on, 2 minutes. 2 minutes pour que chacun puisse donner une information ou une opinion qu'il n'avait pas pu exprimer. Jean-Yves Le Gallou, c'est à vous.
Moi, je vais faire une page de publicité. Le prochain colloque de l'Institut Iliade aura lieu le samedi 5 avril 2025. La salle est déjà réservée, donc 5 avril 2025. On peut se procurer les actes du colloque publiés par Livre Arbitre sur le site de l'Iliade, sur le site de Livre Arbitre ou à la Nouvelle Librairie. Et on peut aussi, dans les mêmes conditions, sur le site de l'Iliade en particulier, se procurer le très beau cahier du Pôle Études qui a été présenté par Rémi Soulier.
Rémi Soulier, un mot de conclusion.
Écoutez, moi, un mot de publicité aussi. Je recommande évidemment à tous les auditeurs de se procurer ce très beau cahier d'études pour une pensée européenne. Je songeais, écoutant Thomas White, à évoquant les archéo-futuristes. Hein, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais c'est aussi une des manières d'exposer ce que ce cahier a de pluriel, disons, puisqu'il est aussi question, à travers l'article en particulier d'Adriano Scianca, de cette veine-là qui existe à l'Institut Iliade, qui n'est pas la veine que l'on pourrait dire orphique ou plus traditionnelle, mais la veine archéo-futuriste est aussi représentée dans ce cahier. Pluralité de l'Europe et pluralité des esprits.
Thomas White.
Oui, eh bien, en attendant le prochain colloque effectivement du 5 avril 2025, les auditeurs qui sont intéressés à cette thématique pourront retrouver les interventions de cette année qui vont être mises en ligne progressivement sur le site de l'Institut Iliade, comme ils peuvent déjà d'ailleurs retrouver les interventions des colloques précédents qui représentent déjà une base extrêmement riche. Et puis ils pourront aussi, je parlais de la dimension artistique de l'Institut Iliade et notamment de l'exposition lors du colloque d'artistes, ils pourront aussi retrouver sur le site de l'Institut Iliade les différentes productions des artistes de la carte blanche artistique, pouvoir éventuellement les commander en tirage d'art unique. Et puis peut-être un dernier mot, puisque je suis auditeur donc des formations. Et bien, pour les plus jeunes qui souhaitent se former, l'Institut Iliade propose 2 formations. Une formation jeune sur un seul week-end pour les 18-23 ans, qui la prochaine, je crois, est en septembre, on peut s'inscrire. Et pour la formation générale dont je parlais au début d'émission, on peut encore s'inscrire jusqu'en juin pour participer aux promotions de l'année prochaine.
Et bien, vous avez tout à fait bien fait d'en parler. Nous allons conclure sur cet aspect. L'Institut Iliade, c'est un institut de formation, mais c'est aussi une communauté dans laquelle on peut agir, réfléchir, mais aussi échanger. Le colloque, de ce point de vue, était emblématique. Il y a eu, à la Maison de la Chimie, plus de 1400 personnes de 3, voire 4 générations qui étaient heureux de se retrouver.
4 générations.
Oui, 3, voire 4 générations.
Il y avait des 2 ans à la halte garderie.
Et beaucoup d'annonces.
Et nous sommes obligés de conclure sur ces mots. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Nous n'avons pas pu tout aborder. Donc oui, il faut se retourner vers les publications dont nous avons parlé et se rapprocher de l'Institut Iliade. Merci à tous. Bonne soirée.
Vous venez d'entendre le libre journal des années décisives, dirigé par Christophe Blanc, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mardi 9 avril 2024 de 18h à 19h30 et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue. Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris.